France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous ouvrons toujours nos carnets par une solution créée dans le département de référence de la semaine, à savoir le Haut-Rhin. Celle de ce jour a pris une ampleur nationale pour cause. Il s'agit d'une application de référence pour les randonneurs et les randonneuses à pied ou à vélo. Ça s'appelle Viso Rando. Plus de 23 000 itinéraires y sont répertoriés avec leur géolocalisation. Autre service qui s'étend cette fois à toutes les régions, Trucks and Bee, qui résout le problème des parkings poids lourds non sécurisés. Ce Airbnb du stationnement poids lourd est l'invention de Thierry Vandenbroek, chef d'une entreprise de transport durant 35 ans. Une vingtaine de sites fonctionnent déjà, une soixantaine est à venir. L'objectif est d'associer le plus grand nombre d'entreprises du secteur qui pourraient entrer dans une dynamique solidaire.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Arnaud Lecuze, bonjour.
Bonjour.
Vous marchez beaucoup, Arnaud ?
Écoutez, oui, je marche pas mal. Ben, par exemple, ce week-end, j'étais en Forêt-Noire et donc j'ai randonné 2 jours d'affilée en Allemagne, juste à côté de l'Alsace.
Il y a quelques années, vous avez créé un site et une application mobile de référence pour la randonnée en France et même vous allez du côté des voisins européens. Ça s'appelle Viso Rando. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez déjà un praticien de la chose. Chez vous, il y a 23 483 itinéraires?
Ben oui, c'est ça. En fait, on a démarré avec mon cousin Fabien Biver il y a une bonne dizaine d'années. Au début, c'était un petit projet en fait de passionné. Fabien, lui, est accompagnateur en montagne. Moi, je suis plus développeur web, mais on est tous les deux passionnés par la randonnée. Et on a voulu, en fait, au départ, partager nos idées de randonnée. Et c'est comme ça que le projet est né. Petit à petit, il a pris de l'ampleur, un peu d'envergure. On a toute une équipe de modérateurs bénévoles qui nous ont rejoints pour nous aider en fait à valider les circuits qu'on publie ou qu'on ne publie pas. Et puis bon, l'aventure a continué. Et il y a quelques années, effectivement, on a recruté nos premiers salariés et maintenant on est une équipe de 13 personnes à temps complet à travailler sur ce projet.
Vous avez fait une étude de marché pour le développement de Viso Rando parce que je suppose qu'il y a concurrence.
Ben, au début, pas du tout. En fait, au début, nous, c'était un projet de passionné, tout simplement. On s'est dit, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors c'est vrai qu'on avait regardé un peu ce qui se faisait à côté. Hein. On avait remarqué qu'il n'y avait pas de site équivalent à ce qu'on projetait de faire à l'époque. Le concept, en fait, a plu à pas mal de monde. On est sur un modèle, en fait, où les gens peuvent partager leurs idées de randonnée. Donc c'est un modèle communautaire. Et c'est vrai que cette idée de partage associée à l'idée de proposer des itinéraires qui soient qualifiés, c'est-à-dire que on a toujours un descriptif précis de l'itinéraire, on a des cartes précises d'itinéraires. Beaucoup de gens s'y sont retrouvés, nous ont rejoints à la fois pour continuer à enrichir en fait notre base de données de randonnée, et donc se sont mis à utiliser notre service.
Comment vous garantissez la qualité des informations que vous donnent les internautes ?
Alors ça, c'est très bonne question parce qu'on nous a souvent reproché en fait de qu'on reçoit un site internet et que voilà, on publie tout et n'importe quoi. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On a une équipe de modérateurs en fait qui vérifie chaque circuit. Donc en fait, un utilisateur peut proposer un circuit de randonnée en y associant une description, enfin tout un tas d'informations en fait que nous ensuite on va vérifier. Et c'est vrai que c'est cette relecture par cette équipe de modérateurs qui au fil des années a permis d'améliorer la qualité des circuits et de faire en sorte que finalement quand un circuit est publié sur Viso Rando, dans 99% des cas, je dirais, il n'y aura pas de problème effectivement pour le suivre sur le terrain.
C'est-à-dire que vous confirmez vraiment les 23 483, je répète parce que c'est quand même massif, 83 ouais. Itinéraires qui permettent de prendre un itinéraire à pied, VTT, en cycloroute, à ski, en raquette à neige, à cheval, en barque, canoë, kayak, évidemment que des moyens verts et écologiques, mais vous proposez même des randonnées urbaines ?
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a à peu près 90% de nos itinéraires de randonnée qui sont pédestres. On a aussi un peu de vélo. Le reste, pour être franc, est plus anecdotique. Mais on a aussi de plus en plus des randonnées urbaines parce que ben, dans les grandes villes, notamment à Paris, hein, moi j'en ai fait quelques-unes à Paris, il y a des endroits qu'on peut découvrir à pied qui sortent de l'ordinaire, qui sont super intéressants. Et disons que ça change simplement de la randonnée en pleine nature. Bon, c'est vrai qu'on a surtout des randonnées dans le milieu naturel, Mais les randonnées en pleine ville aussi peuvent valoir le coup, oui, clairement.
Et depuis la création, plus de 6 millions et demi de téléchargements, 2 millions d'utilisateurs réguliers, et on va même du côté du Royaume-Uni, de l'Allemagne.
Alors c'est ça, on s'est rendu compte qu'on a un concept qui marche très bien en France, et on s'est dit, pourquoi pas aller voir un petit peu du côté de l'Allemagne, parce que c'est un pays où il y a énormément de randonnées à faire également, et puis aussi du Royaume-Uni, parce que c'est vrai que vu de France, on se rend pas compte, mais c'est un pays aussi qui offre une diversité, une variété d'itinéraires, qui mérite toute sa place sur Visorando. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'essayer de proposer nos services aussi dans ces deux pays.
Alors, et si vous utilisez Visorando, vous allez sur un chemin, vous avez la localisation GPS, donc vous savez où vous mettez les pieds, vous avez la carte précise du terrain et du parcours, et vous pouvez en profiter. Le site, c'est visorando.com. Merci Arnaud.
Voilà, merci à vous et bonne randonnée.
France Inter, carnet de campagne.
Les journées nationales s'enchaînent à un tel rythme que les messages qu'elles tentent de propager nous échappent parfois totalement. Il en est une pourtant que nous aimerions faire ressortir du lot afin de parler d'une initiative très originale. C'est la journée nationale de l'abeille, oui, qui aura lieu le 20 mai. Depuis plusieurs années, des apiculteurs portent l'initiative que nous avions déjà relayée d'un toit pour les abeilles. Cette opération repose sur le parrainage que tout particulier ou toute entreprise peut signer en faveur d'une ruche. En échange, les parrains peuvent visiter le rucher, recevoir des pots de miel et des nouvelles de leurs abeilles. La nouvelle invention de ces apiculteurs, pris d'effroi par la baisse de reproduction des abeilles enregistrée en 2021, qui s'appelle les dorloteurs d'abeilles, c'est une invention assez incroyable. Il s'agit de multiplier le nombre des abeilles sauvages qui participent à la pollinisation alors qu'elles ne vivent pas en ruche et ne produisent pas de miel. Encore méconnues, 40% d'entre elles sont en voie de disparition. Et pour les sauver, vous pouvez acheter un dorlotoir à poser sur votre balcon ou dans votre jardin. Et dès le mois de mars, les abeilles sauvages viennent y pondre leurs œufs qui se transformeront en larves, puis en cocons. Grâce aux galeries transparentes du dorlotoir, on peut suivre l'évolution des larves et le cocon collecté sera ensuite envoyé en hiver à l'équipe des dorloteurs. Alors allez voir, il y a ces petites cabanes, niches à abeilles sauvages et ça vous permet de suivre donc l'évolution de la ponte de ces abeilles, les dorloteurs.com. Thierry Vallenbroek, bonjour.
Bonjour France Inter, bonjour à tous.
Merci de nous présenter votre invention. Vous êtes fondateur de Tracks & Bee. C'est le Airbnb du stationnement poids lourd. Pourquoi cette invention? Parce que jusqu'à présent, les stationnements sont plutôt sauvages.
Oui, alors Tracks & Bee, c'est une plateforme communautaire qui met donc en relation le monde de la route et des sites partenaires qui accueillent des camions pour un temps de repos défini en tant que tel. Cette application permet donc de la réservation, du moyen de paiement et du contrôle d'accès. On a voulu créer Tracks & Bee parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a environ 100 000 camions sur le plan national qui cherchent à stationner toutes les nuits ou dans la journée et que ces véhicules sont bien souvent en totale insécurité et que le conducteur routier manque totalement de dignité. Donc, on a imaginé ce concept au travers de la dignité du conducteur, de sa sécurité et bien entendu du stationnement de son véhicule.
Les temps de repos sont de quel ordre dans une journée ou une semaine de travail d'un chauffeur routier?
Alors, un conducteur routier peut rouler 3 fois 10 heures et 2 fois 9 heures. Donc les temps de repos sont en principe orientés après ces temps de conduite. Dans sa conduite journalière, le conducteur routier doit faire une pause de 45 minutes environ toutes les 4h30 de conduite.
Ce qui est très court.
Oui, tout à fait. Mais les temps de repos qui sont nécessaires, bien entendu, au bon fonctionnement de l'être humain, donc de non-conducteur routier, est surtout une méthode qui doit être réel, c'est-à-dire que le conducteur routier ne peut pas faire son temps de repos en contrôlant sa marchandise, en surveillant son carburant et en étant en totale sécurité. Il faut qu'il puisse vraiment se mettre dans sa couchette et puis avoir une vraie nuit de sommeil pour être en pleine forme le lendemain matin et d'autant plus pouvoir prendre une bonne douche et trouver des sanitaires dignes de ce nom.
Alors la seule solution jusqu'à présent, sont les aires de stationnement des autoroutes.
Oui, alors il y a les aires de stationnement d'autoroutes. Aujourd'hui, il y a des gros parkings qui se mettent en place en France, voire à l'étranger. Mais nous, on a voulu créer donc l'Airbnb de stationnement, c'est-à-dire exploiter les surfaces existantes inoccupées. Je reprends un exemple d'un transporteur routier qui envoie ses camions en découche 5 jours dans la semaine. Il a de la place sur son parking, donc il peut accueillir d'autres camions, moyennant bien entendu une rémunération, et mettre à disposition des douches sanitaires. Il y a 3 prérequis pour devenir Trucks & Bee, c'est donc une surface clôturée, un portail motorisé, et bien entendu les commodités à disposition.
Alors, ce qui est valable en France pourrait l'être aussi à l'étranger.
Tout à fait, alors ça se développe aussi un peu à l'étranger. Hein. L'Allemagne est très précurseur en la matière. En France, on commence à rattraper un peu le retard, mais actuellement, on en a besoin parce que nos conducteurs méritent toute cette attention et surtout, la sécurité est d'autant plus omniprésente avec, comme vous le savez, le coût du carburant qui est de plus en plus excessif et forcément, un véhicule lourd possède entre 400 et 800 litres de gasoil à bord. Donc, c'est souvent une source d'infraction.
Vous avez été, Thierry, pendant 35 ans à la tête d'une entreprise de transport à Dunkerque. Vous avez consacré un budget de 500 000 euros dans cette application.
Oui, alors on est un peu plus loin maintenant déjà, parce que effectivement, on a dû créer une application. On a donc embauché maintenant des commerciaux qui font la démarche d'aller voir les sites partenaires pour leur proposer cette solution. Et bien entendu, avec nous, il y a de la communication et il y a tout un système administratif et financier qui tourne autour du fait que c'est une start-up, mais une start-up qui a pris déjà un peu d'ampleur.
Mmh. Vous en êtes à combien de sites d'accueil et de parking?
Alors actuellement, on a une 40aine de sites qui sont actifs. On en a une 60aine qui sont dans les tuyaux. Il nous en faudrait à 5-6 ans environ 1500 pour pouvoir stationner environ 30 000 camions.
Ce qui veut dire que vous faites appel à des candidatures et entre autres des entreprises.
Tout à fait, on est très orienté vers le monde du transport, hein, donc que ce soit des transporteurs, des logisticiens, des concessionnaires poids lourds, tout ce qui tourne autour du transport, de la station de lavage bien entendu, qui est aussi important pour nous. Il y a le côté écologique aussi, hein, parce que plutôt que d'aller bétonner 40 000 ou 50 000 mètres carrés de terres agricoles pour faire un parking sécurisé poids lourd, on a plutôt essayé, nous, de trouver ces endroits existants pour pouvoir les exploiter et pour pouvoir stationner ces poids lourds qui sont en quête de sécurité au quotidien.
D'ailleurs, à propos d'écologie, quand on voit que le transport de marchandises est dominé par le transport routier, 88,5% du transport terrestre aujourd'hui se fait par la route. Écologiquement, est-ce que c'est pas une catastrophe?
Alors aujourd'hui, il faut savoir aussi que ces poids lourds sont de moins en moins polluants. Il y a des normes qui se sont mises en place il y a de ça une vingtaine d'années et un véhicule lourd aujourd'hui pollue presque moins qu'un véhicule léger. Mais effectivement, alors c'est de la pollution parce qu'il y a du visuel, parce que c'est un impact routier important. Après, ça dégage du CO2, effectivement. Maintenant, il y a des solutions qui arrivent sur le marché et qui sont déjà présentes, telles que le gaz naturel liquéfié et demain l'hydrogène.
Quoi. Le site, c'est trucksnb.eu, invention que l'on doit à Thierry Vollenbroek, notre invité, pour ce Airbnb du stationnement poids lourd, pour proposer aux conducteurs un repos de qualité sur des sites partenaires sécurisés. Merci Thierry.
Merci, bon après-midi à tous. Merci.
Un petit mot sur Steinbach, 1400 habitants à l'est de Mulhouse, dépossédé de son dernier commerce, c'était sans compter sur l'association du foyer de Steinbach, membre de la Fédération des foyers clubs d'Alsace, animatrice depuis 50 ans du village, qui a pu ouvrir avec les habitants et la commune un lieu qui est une épicerie associative, d'abord fournie en produits locaux, le Stein. On y a installé des bacs potagers dans l'esprit des incroyables comestibles, un repère café, un espace culturel. On a même mis au point une application locale, Stein App, qui permet les échanges gratuits de biens et de services. Et puis comme on est attaché en Alsace aux journées citoyennes, la commune en prévoit une qui comportera des chantiers de peinture avec les habitants, peinture de voirie au sol, entre autres, désherbage manuel d'espace public ou de construction de mobilier en palette. Allez voir le site, c'est le stein.fr.